Et puis là, je crois qu'ils sont prêts, ça y est.
Eh bien, je crois aussi, hein, ça, y a une ébullition dans le studio.
Eh oui, puis je peux te dire qu'ils sont stressés. Bon, enfin, on va tout de suite voir ce que ça va donner. Allez, top
on
générique.
Y va.
Ouais.
Radio Clémy. Dessine-moi demain. Une émission présentée par Cédric.
Bonjour, aujourd'hui dans Dessine-moi demain, nous avons droit à une programmation riche sur un sujet sérieux, l'école 3.0, l'école du futur. Nous retrouverons nos chroniqueurs habituels, le duo de choc et de charme nous proposeront un voyage dans le temps, l'inimitable Jean-Marie et son billet d'humeur, la globe-trotteuse Claire est allée auprès de la jeunesse dans la rue pour récolter une vision et nous parlera d'architecture et d'écologie. Les pétillantes Tiffaine et Claudine nous projetteront dans le CDI du futur. Sans attendre, commençons par notre spécialiste, Perrine. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Tu vas nous parler d'une expérience nouvelle, le hackathon. Mais dis-moi tout, qu'est-ce que c'est le hackathon ?
Alors aujourd'hui, dans ma chronique numérique et créativité, je vais vous présenter une méthode de travail innovante, le hackathon pédagogique, ou comment travailler ensemble et autrement. Numérique et créativité par Perrine Chambaud, tous les vendredis à 15h sur Radio Canopée. Historiquement, un hackathon est un événement où des développeurs se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, en général sur un week-end. Le terme est un mot valise constitué de hack et marathon. Les valeurs développées par le hackathon sont l'ouverture. Elles se déclinent de plusieurs manières et notamment à travers l'entraide pendant le concours où les échanges entre compétiteurs sont nombreux, facilité par la proximité, voire la promiscuité du lieu et une ambiance souvent festive. Au bout du compte, le résultat n'a pas plus d'importance que la course elle-même. Le mérite, il est le principal moteur des participants à cette course. En effet, ils cherchent principalement la reconnaissance des pairs à même de juger la qualité du travail accompli. L'expérimentation, qui permet de trouver autre chose que ce que l'on cherche. Enfin, la vitesse, qui est une caractéristique déterminante de l'organisation. Le délai de réalisation extrêmement court introduit un stress positif dans les équipes. Il était nécessaire et évident d'adapter cette méthode et ses valeurs à l'éducation nationale. Pour la première fois, et dans le cadre du campus européen d'été, le 16 septembre 2015, de 9h à 21h, des équipes canopées répartis dans plusieurs sites, participent à un hackathon pédagogique. Une cinquantaine d'équipes vont concourir pour réaliser un scénario pédagogique. La thématique donnée à l'ouverture du hackathon était « Numérique, le pouvoir de faire ensemble et autrement ». Écoutons Karine Ayeri du réseau Canopée et co-organisatrice pour l'émission spéciale de Ludomag du 5 novembre.
Un peu une mise en abyme finalement. On a faire ensemble et autrement dans le scénario pédagogique qui va être conçu par les gens qui sont en train de travailler actuellement. On a aussi faire ensemble et autrement parmi les participants.
Après 12 heures de travail dans un lieu clos et souvent entre collègues qui ne se connaissaient pas, l'équipe devait produire un scénario pédagogique, une notice décrivant l'équipe et l'activité d'apprentissage, les ressources nécessaires à la mise en œuvre du scénario et une bande-annonce de 2 minutes. À l'issue du concours, un jury composé d'experts du numérique éducatif, universitaires, cadres de l'éducation nationale, enseignants, entrepreneurs, se sont réunis le lendemain pour départager les productions issues de ce hackathon. Patrick Joubert, juré du hackathon, nous en dit un peu plus.
Là, sur de la pédagogie, il va peut-être sortir des choses assez incroyables. Des nouvelles façons d'aborder un sujet et de se concentrer comme ça dans une espèce d'émulation sur 24, sur 12 heures. Je pense que ça va donner des choses assez sympas.
Le prix de la créativité a été décerné cette année à une équipe de l'Académie de Toulouse. Et nous écoutons dès à présent un extrait de leur bande-annonce lu par Anne Delannoy, professeure documentaliste.
Dans ce projet, les élèves s'organisent, échangent, conçoivent et réalisent. Ces étapes favorisent leur engagement et leur créativité. Grâce à cet enseignement interdisciplinaire, les apports de chaque matière permettent une continuité des apprentissages. la rupture des postures traditionnelles, tant celle des élèves que celle des enseignants, génère le plaisir d'apprendre, ensemble et autrement.
Numérique et créativité par Perrine Chambaud, tous les vendredis à 15h sur Radio Canopée. Au-delà de l'expérience humaine et professionnelle, c'est une méthode de créativité qui est éprouvée. Ce pouvoir de faire ensemble et autrement peut être utilisé au sein des établissements et des classes. Pensons notamment à l'émergence des problématiques en TPE en lycée, à la résolution d'un problème technique en cours de technologie ou même dans toute démarche d'investigation. La durée devra être certes aménagée en de mini ou micro hackathons, mais la finalité de cette méthode emmènera certainement les élèves loin dans l'innovation, la réflexion et la créativité. Bonne innovation à tous et à la semaine prochaine.
Merci Perrine pour cette vision immersive et voyons maintenant comment développer peut-être une vision un petit peu plus futuriste des centres de documentation et d'information. Pour cela, j'accueille directement dans le studio Tiphaine et Claudine, c'est à vous.
Tu connais ce texte futuriste de 2012, le Vade Mecum des centres de culture et de connaissances, le 3C qui prévoit la révolution de ce qui est aujourd'hui notre perception du CDI?
Oui, le CDI de demain. Comment sera-t-il d'ailleurs?
Différent. Les nouvelles technologies ont bouleversé le rapport à la connaissance, la mettant à portée de clic de tout un chacun. C'est la révolution des apprentissages et les statuts de tous. Par exemple, le 3C prévoit la fusion entre espaces de vie scolaire et documentation.
Mais concrètement, comment ça va se passer? Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir à gérer les retards ou les conflits entre élèves. Ça fait pas partie de mes compétences. Ou pire encore, d'être subordonné au CPE.
Mais non, il s'agit de collaborer avec le CPE et la vie scolaire pour prendre en charge l'élève dans sa vie au collège. Construire avec le CPE et tous les acteurs le projet de chaque élève, tout simplement.
Oui, mais les 3C, c'est aussi le tout numérique. Tu vas voir, on va se retrouver avec des robots casqués, branchés en permanence, mais complètement déconnectés des autres.
Mais non, le numérique, c'est l'autonomie. C'est la possibilité donnée à l'élève de construire à lui-même son apprentissage.
Oui, du coup, plus besoin de prof.
Mais si, car le numérique n'est qu'un outil d'apprentissage. Notre mission est d'éduquer et d'accompagner les jeunes pour qu'ils savent s'en servir au mieux.
Et le livre dans tout ça?
Le quoi?
Le livre. Tu sais, le livre. Le papier, l'écriture, le codex, la tablette, tout ça, quoi.
Eh ben, tu vois, la tablette, finalement, on y revient, mais en web 2.0. Allez, au boulot maintenant.
Au revoir les filles, bon courage. Après cette vision du numérique et des robots, nous allons essayer de voyager un petit peu avec notre globe-trotteuse Claire, qui va nous accompagner. Elle est partie dans la construction, l'aménagement du futur. Et pour cela, Claire est partie dans la rue, n'est-ce pas Claire?
Oui, bonjour Cédric. Donc imaginez une école où la liberté prime sur la restriction. Une école où les arbres sont partie prenante et intégrée dans la structure. C'est ce qu'a imaginé et conçu un architecte japonais qui s'appelle Takaharu Tezuka dans la ville de Tokyo. Il a en effet imaginé une école maternelle sans limitation. De forme ovale et d'une surface de 1 304 m², cette école est véritablement conçue comme une grande zone ouverte où se répartissent des outils pour les activités scolaires, comme si c'était un grand village à l'intérieur duquel étaient les enfants. Plus près de chez nous, en France, il y a par exemple en Lorraine, dans la commune d'Alens, un projet d'architecture conçu par des élèves dont l'objectif est d'être au service du bien-être de l'enfant et la durabilité de l'école. En gros, ils sont partis d'une approche bioclimatique. Ils ont regardé la géologie, les paysages, l'ensoleillement pour pouvoir construire un établissement pour l'élève, avec des espaces pensés pour les élèves, par exemple des cartes géantes, des murs créatifs, des arbres de la connaissance. Mais chez nous, en Guyane, qu'en pensent nos élèves? C'est la question que j'aurais posée. Je me suis allée me promener à côté du collège Auxence Contou et je leur ai posé cette question. Comment imagines-tu l'école de demain? Et voilà leur réponse.
Beaucoup de salles de jeux, beaucoup de terrains de foot par exemple, bon, des choses d'autres.
Et un restaurant.
Et un restaurant.
Il faut qu'il y ait moins de cours.
Moins de cours.
Il faut que les élèves travaillent aussi.
La clim, c'est mieux.
Et il faut mettre l'ascenseur parce que...
Les étages sont... Il y a trois étages. Ça fatigue les pieds, madame.
Merci Claire sur cette vision.
Oui, donc vous voyez, hein, nos élèves, ils sont très pragmatiques, ils veulent du confort. Hein, ils ne parlent pas de tablette, ils ne parlent pas d'informatique, ils ne parlent que du confort, de terrain de foot, de spa d'étage. Donc je suis quand même allée regarder en Guyane sur ce qui se fait. Et donc les derniers collèges qui ont été construits sont quand même des collèges bioclimatiques, donc qui feraient plaisir à ces élèves-là, puisque tout est prévu au niveau du climat et du confort. Avec un seul niveau, des arbres, des espaces, des bâtiments en bois, justement pour plus de confort. Donc à voir si cela va se développer dans tout de l'académie.
Donc le confort et en même temps les bonnes conditions de travail pour nos élèves, c'est pour bientôt.
Espérons.
Merci. Ah, excusez-moi, je viens de recevoir un SMS. Eh oui, j'avais oublié. Effectivement, c'est le billet d'humeur de Jean-Marie. Donc Jean-Marie, la parole est à toi.
Bonjour, salut Cédric.
Salut.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Ben, ça va, ça va. Écoute, hier soir, là, je te raconte, j'étais tranquillement à regarder la télé, là, un reportage sur la réforme du collège. Et là, je me suis demandé à quoi pourrait ressembler un collège en 2150. Du coup, j'ai appelé mon pote Emmett Brown, tu connais, je crois, c'est
oui,
le doc. Le doc, ouais. Pour venir me chercher. Il m'a dit, ok, pas de souci, je viens passer la DeLorean au contrôle technique, donc on peut y aller vite fait.
Super voiture.
Donc du coup, on arrive devant un collège de banlieue parisienne en 2150 et imagine un peu ces élèves du futur. Plus de carnet de correspondance pour s'identifier à l'entrée du collège. Une biopuce est implantée pour ça dans le cou des élèves.
Dans le cou, mais pourquoi dans le cou ?
C'est ce que je me suis demandé aussi. Donc j'ai vu un gamin et je lui ai posé la question, mais pourquoi dans le cou ? Dans l'avant-bras, ça aurait suffi, non ?
Il me semble, oui.
Non, figure-toi qu'il me répond. Tu sors d'où, toi ? C'est pour être relié directement à mon cerveau.
Ouais,
quel petit effronté, celui-là. Et oui, messieurs, dames, les chroniqueurs, depuis 2100 en France, il n'y a plus d'évaluation, de redoublement, de brevet, de bac. C'est cette biopuce qui détermine, en fonction de la maturité du cerveau, si l'enfant est apte ou non à passer en classe supérieure. Du coup, j'ai vu des élèves de 5 ans à 20 ans.
Ah oui, quand même.
Ouais, quand même, ouais.
Ouais.
Et également, il n'y a plus de livres, plus de cartables, plus de cahiers. Ça a été remplacé par un ORE, Oculus Rift éducatif. C'est un masque éducatif virtuel à 360 degrés relié directement à la biopuce.
Ah ouais.
Et en fonction des besoins des élèves, il y a une programmation de séances dans la journée. Ça détermine même les menus à la cantine en fonction des carences des gamins.
D'accord, mais c'est bien tout ça, mais la sécurité, la violence, les bagarres, enfin les choses du quotidien là.
Et ben pour ça, il y a des caméras et un ordinateur cyborg. Et des molécules d'endorphine sont libérées grâce à cette biopuce chez les élèves qui présentent un comportement suspect. J'ai même vu un gamin là, qui arrivait bien speed, bien énervé à l'entrée. Dès qu'il a passé le portail, il était tout doux.
D'accord.
Bon, à la fin, j'ai quand même essayé de rentrer pour aller voir les collègues, pour aller voir les professeurs, l'équipe de direction. Et bien, vous savez quoi ? Des adultes dans un établissement en 2150, on m'a dit « mais t'es ouf ou quoi ? C'est beaucoup trop dangereux ». Du coup, j'ai appelé mon pote et on est reparti dard dans la réalité.
Merci Jean-Marie pour cette vision, peut-être pas si éloignée de la réalité ou pas si proche d'un point de vue biologique. Hein. On ne sait pas trop où se trouve la barrière là, à l'heure actuelle. Bonjour Blandine.
Bonjour Cédric.
L'école 3.0, c'est pas maintenant, mais comment imaginer son fonctionnement ?
Bon, effectivement, vous avez de la chance. Aujourd'hui, nous proposons de faire un bond dans le futur. Nous sommes partis en 2215. Nous avons téléporté Christelle, notre journaliste. Elle est allée à la rencontre d'un directeur d'école. Notre école du futur est vraiment, et on peut le dire, 3.0. Et vous allez l'entendre, c'est assez surprenant. Attachez vos ceintures. 3, 2, 1, c'est parti.
Bonjour Monsieur Bertrand, vous êtes directeur de l'école Jean-Luc Nocchi à Matoury 1, Regina Oyapok.
Bonjour Christelle, oui c'est ça, tout à fait.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe l'accueil des élèves au sein de votre établissement ?
Alors tous les élèves entrent chaque matin par un portail électronique. Ce portail permet de savoir qui est présent ou qui est absent et renvoie automatiquement dans les cahiers d'appels qui sont informatisés, puis sur les serveurs du rectorat.
Très bien, vous avez une organisation vraiment optimale. Par contre, est-ce que vous prenez en compte le biorhythme des enfants ?
Oui, dès le début de l'année, les enfants ont reçu un bracelet fluorescent. Donc, grâce à ce bracelet, après leur entrée à l'école, on détermine quel sera leur parcours de la journée. Et ils iront dans des lieux dédiés aux activités qu'ils devront donc effectuer.
Mais quels sont ces lieux dédiés ?
Alors, il y a différents lieux qui dépendent des différents domaines de compétences dans lesquels ils vont se mettre dans des machines virtuelles qui vont leur permettre de faire des activités de manipulation, de résoudre des problèmes, de s'enregistrer, de se voir. Voilà, il y a tout un ensemble de lieux dédiés et tout en réalité virtuelle et augmentée.
Très bien. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel type d'évaluation vous utilisez ?
Alors c'est très très simple, hein. Chaque enfant est reconnu par le système, quel que soit le lieu dans lequel, vers lequel il se dirige. Donc à partir de là, à chaque fois qu'il réussit une activité, la compétence est validée. Donc c'est un contrôle continu et c'est aussi une évaluation formative qui permet de le relancer ensuite sur des activités adaptées à son niveau et à ses besoins.
Eh bien, Monsieur Bertrand, nous vous remercions de nous avoir accueillis au sein de votre école Jean-Luc Nocchi et nous vous souhaitons une bonne continuation.
Merci à vous. Bonne journée également.
Christelle, notre journaliste, est revenue un peu secouée par ce voyage. Elle vous racontera, Cédric. Enfin, espérons que la matrice ne prendra pas le pouvoir et qu'elle ne grillera pas les petits neurones de nos bambins adorés. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Blandine, mais la prochaine fois, c'est vous qui partez en voyage. Hein ?
Je n'y manquerai pas.
Vous l'aurez compris, l'école du futur se construit au travers de son passé, de son vécu actuel pour s'adapter au futur. Dessine-moi demain, essayer d'éclairer la réflexion avec sérieux et conviction. Néanmoins, comme le disait Coluche, la réalité dépasse souvent la fiction. Il me reste maintenant à remercier pour la réalisation technique de cette équipe Benjamin et Élise. Merci à eux, une fois de plus, pour une réalisation technique aux petits oignons. Et l'équipe de Dessine-moi demain vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Dessine-moi demain. Radio Clémy.